Chaque samedi, je vous convie à un voyage biographique. Partir grâce au documentaire sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Quelle fut la vie de celle ou de celui qui fit œuvre? Comment l'œuvre et la vie se nourrissent-elles l'une l'autre? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Il fait partie intégrante de la légende américaine, au même titre que la Winchester ou la mitraillette Thompson. Popularisé par le western hollywoodien, le Colt est devenu à lui seul tout un symbole. Conquête de l'Ouest et guerres indiennes. Aujourd'hui, Michel Pomarède et Yvon Croisier vous proposent Samuel Colt, 1814-1862, c'est toute une vie ponctuée d'échecs, de faillites et d'inventions à cinq coups.
1831. Quelque part au milieu de l'Atlantique, un bateau fait route vers Calcutta. À bord, un jeune homme de 17 ans qui s'est engagé comme simple marin. Il fuit une jeunesse sans joie et un poste d'ouvrier dans une usine de textile dans le Massachusetts. Au passage du cap de Bonne-Espérance, il regarde avec attention le fonctionnement de la barre. Ou peut-être est-ce celui de la manivelle pour hisser l'ancre. Soudain, une idée lui traverse l'esprit. Pourquoi ne pas adapter ce dispositif à taquet ? Ce jeune homme, c'est Samuel Colt, et il vient d'inventer une arme à barillet, le revolver. L'histoire vous a plu ? Il se peut qu'elle soit totalement fausse, mais suffisamment belle pour créer la légende de celui qui se fera appeler beaucoup plus tard Colonel Colt. Alors qu'il n'a jamais porté l'uniforme.
Samuel Colt, l'homme qui arma l'Amérique. Michel Pomarède, Yvon Croisier.
Bonjour, mademoiselle Jessie.
J'étais en route pour me rendre à la mine de la Méduse et en passant près d'ici, j'ai entendu des coups de feu. Je ne savais pas que c'était vous. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Blaisdell? Vous ne tiriez pas sur des bandits?
Non, je m'entraînais.
Vous vous entraîniez?
Oui, mademoiselle. Vous faites des exercices sur votre piano et moi avec mes colts. Les enjeux sont différents, mais nos raisons sont les mêmes. De quoi pourrions-nous parler maintenant, mademoiselle?
Daniel Casanova, vous avez notamment écrit l'histoire du revolver. Est-ce qu'on pourrait planter le décor de l'enfance de Samuel Colt? On est à Hartford, dans le Connecticut.
Oui, parfaitement. Son père avait une teinturerie et c'était un enfant curieux, passionné de mécanique. Bon, il y a beaucoup de légendes hein, sur Samuel Colt, parce qu'on n'a pas de faits très précis. Mais disons que il s'était intéressé aux explosifs, puisque son père, dans la teinturerie, connaissait la chimie, etc., etc. Et il s'est passé quelque chose d'important dans son adolescence, quand il avait 16 ans. Il a embarqué sur un bateau de Boston à Calcutta. Et pendant cette traversée, la légende, encore une fois, veut qu'il s'est intéressé à la roue du navire, c'est-à-dire la roue qui dirige le gouvernail, où il voyait que le timonier donc, pouvait cranter cette roue pour maintenir le cap et donc le gouvernail dans une position. Donc toujours est-il que à bord du bateau, il aurait conçu un revolver. Un revolver évidemment en bois. Et le principe du revolver, c'est d'avoir un barillet. Donc un barillet qui va tourner. Et il fallait, au moment du départ du coup, que la chambre du barillet, le barillet est foré de 6 chambres, il y en a une qui se trouve en face le canon, et ce serait l'écran du navire. Donc, toujours est-il que notre jeune homme revient de ce voyage, prend conseil auprès de son père, des amis de son père, qui lui disent bien que l'idée est bonne, mais qu'il faudra surtout la faire enregistrer pour que son invention soit reconnue.
Steve Galizia, nous sommes dans les archives de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, et sous nos yeux, nous avons le brevet de dépôt de Samuel Colt du 16 novembre 1835, 14 pages manuscrites avec un sublime dessin à la fin. Pourquoi est-ce que vous, à l'INPI, vous avez ce manuscrit ?
Alors tout à fait. Il faut savoir que la première loi sur les brevets d'invention est votée en 1791 et à l'époque, il n'existe pas de convention internationale en matière de propriété industrielle. Donc un inventeur étranger doit donc faire breveter son invention dans chacun des pays dans lesquels il souhaite être protégé. Lorsque Colt dépose son invention aux États-Unis, il le dépose également en Angleterre et puis en France.
Il vient pas en personne déposer ce brevet, il mandate quelqu'un. Est-ce qu'on peut avoir la lecture, peut-être avec vous, Amandine Gabriel, qui est aussi, vous faites aussi partie du service des archives de l'INPI, la lecture de cette première page du représentant de Samuel Colt ici à Paris, donc en 1835.
Oui, donc c'est une lettre qui est adressée au ministre donc des Travaux publics et du Commerce. Monsieur le ministre, je viens au nom de Monsieur Samuel Colt, citoyen des États-Unis d'Amérique, que je représente, solliciter un brevet d'invention et d'importation de 15 ans pour des perfectionnements dans la construction des armes à feu. J'ai rempli en son nom les formalités d'usage. Daignez agréer Monsieur le ministre ma salutation très humble et très respectueuse. Et donc c'est signé Antoine Perpignan, le mandataire du brevet. Donc, l'introduction du brevet précise « L'invention consiste à adapter ou à appliquer des leviers, des tiroirs ou des pièces coulantes, des plaques, des ressorts, un rocher, un arbre, un mandrin, un manchon et d'autres dispositions mécaniques ci-après décrites, à cette espèce d'armes à feu qui sont pourvues d'une culasse tournant autour d'un axe parallèle à l'axe du canon. Dans laquelle culasse sont placées 6 chambres ou davantage, pouvant chacune contenir une charge de poudre et de plomb. Lesquelles charges par la
Jean-Marie Martin, on est au stand de tir de Quincy voisin, oui. En banlieue nord-est de Paris. On est à quelques 6000 km de Hartford, dans le Connecticut, là où Samuel Colt a créé son Colt. Et vous êtes le responsable de la section poudre noire de ce stand de tir.
Tout à fait.
Et oui. Là, sur la table, des Colts.
Il y a surtout un Colt d'origine que vous allez voir.
Alors montrez-nous.
Le Colt d'origine, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est un Colt d'origine, qui s'appelle aussi le pacemaker, Samuel Colt.
Je peux le prendre en main ?
Oui, allez-y, pas de problème. Attends, je vous montre quand même qu'il est pas chargé, hein, pour la sécurité. Attendez, hop, voilà, il n'y a rien dedans. Voilà, maintenant vous pouvez le prendre, pas de problème.
Il fait quel poids ?
Oh, il doit faire un peu plus d'un kilo, il n'est pas très lourd.
Donc, il faut de l'argent, à la fois pour déposer les brevets et à la fois pour faire fabriquer des prototypes.
Le spécialiste des armes, Daniel Casanova.
Mais donc là, il a une idée. Comme il revient de Calcutta, il devient le docteur Colt de Calcutta, spécialiste en gaz hilarant. Et il va parcourir les États-Unis en vendant son gaz hilarant. Et tout l'argent qu'il va récolter va lui permettre de faire fabriquer des prototypes et présenter ces prototypes à différents financiers industriels. Ces hommes de l'art fondent la Patent Arms Manufacturing Company. Samuel Colt n'a que 22 ans et il va présenter ses revolvers à différentes autorités.
Du coup, donc cette planche, elle vient complètement documenter la demande du brevet d'invention, c'est-à-dire qu'elle vient l'illustrer, donc illustrer le texte qu'on vient de lire. Donc c'est une planche originale, donc qui est une planche de dessin technique, mais avec un certain caractère esthétique, notamment par l'usage des couleurs. Donc c'est une planche d'assez grand format. Elle est aquarellée de bleu, de jaune et de rouge. Et donc toutes les légendes sont manuscrites et renvoient vers le descriptif du brevet d'invention. Donc c'est un plan du revolver éclaté, donc c'est-à-dire qu'on a une représentation complète de l'arme, puis les détails de chacune des pièces détaillées dans le brevet. Et donc on voit sur cette planche donc les éléments qui sont mentionnés, donc notamment le barillet et les différentes charges de poudre qui forment du coup vraiment l'innovation du revolver de Colt. Également donc la crosse, le chien, donc le levier qui permet donc d'aligner chacune des charges en face du canon. Et c'est intéressant aussi parce que cette planche, elle porte des mentions administratives qui sont propres à la délivrance du brevet d'invention, notamment donc ici avec le timbre sec donc du ministère du Commerce et des Travaux Publics qui est en charge de la délivrance du brevet.
1837, rapport sévère de l'Académie militaire de West Point sur le revolver. Si l'on considère sa complexité, cette arme paraît sujette à trop d'accidents. Elle ne remplit en rien les critères généraux attendus pour une utilisation au combat.
Eh, je te donne 5 minutes pour quitter la ville. Johnny, sors ton revolver, espèce de sale dégonflé.
Tiens-le !
Sors ton feu ! Bouge pas ! Bouge pas ! Lâche ton arme ! Joe, pas de bêtises !
D'abord, c'est une énorme nouveauté. Hein. À l'époque, on est avec des pistolets à un coup. Et le défaut, on va dire, des prototypes conçus par Colt, c'est qu'il y a des risques d'ignition des 6 chambres en même temps, donc c'est très dangereux pour l'arme et pour la main du tireur. Et au niveau, par contre, de construction, c'est bien réalisé, mais le mécanisme a besoin d'être amélioré.
Parce que c'est déjà arrivé que ça s'est enflammé sur plusieurs barillets. Boum, pendant le tir. Alors bon, ça fait drôle, quoi. Donc pour éviter ces problèmes d'enflammage, parce qu'il y a de la poudre noire qui reste un peu sur le bord, là, donc là, ça risque pas. Donc ça, c'est une sécurité. On y met de la graisse, un petit peu, à la sortie du barillet. Donc ça, c'est la réplique. Je vais vous faire tirer avec. C'est pour pas trop user l'arme d'origine, parce que je la garde pour les compétitions. Ouais. Non, n'ayez pas peur. Hein. Vous avez vu, je vous l'oriente jamais vers vous. Hein. Alors, vous voyez, on a la poudre comme ceci. On n'a pas le droit d'amener de la poudre en vrac, de la poudre noire. Parce qu'il suffit qu'une flamèche y tombe dedans et on est en slip après, quoi. Donc voilà.
Deux ans plus tard, le 4 février 1839, changement de ton. À force d'obstination et de modification sur son modèle initial, Samuel Colt reçoit la lettre d'un certain lieutenant-colonel Harney. En réponse aux nombreuses sollicitations concernant les armes de votre invention, j'ai le plaisir de vous dire qu'elles ont dépassé mes attentes, qui étaient grandes. Je pense que dans quelques années, les troupes n'utiliseront aucun autre revolver sinon le vôtre.
Didier Combeau, vous êtes historien. Votre spécialité, c'est l'histoire des États-Unis. On vous doit un livre de référence qui s'appelle « Des Américains et des armes à feu, démocratie et violence », publié en 2007, et plus récemment « Être américain ». Être américain, justement, au temps de Samuel Colt, dans le rapport aux armes, ça voulait dire quoi ?
Écoutez, ça voulait dire... Les armes étaient moins nombreuses hein, à l'époque de Samuel Colt, parce que il faut pas oublier que les armes, à cette époque-là, se chargeaient par le canon, elles étaient un petit peu compliquées à utiliser, elles étaient difficiles aussi à entretenir. Mais déjà, les armes avaient beaucoup d'importance aux États-Unis parce que au moment de la colonisation, les colons s'étaient trouvés en face d'un continent plus ou moins hospitalier, et donc avaient des armes comme outil hein, pour la chasse, pour se protéger de la nature et puis aussi pour se protéger des Indiens. Et puis, au moment de la Révolution, ce sont des milices armées qui ont permis de la guerre d'indépendance. On pense en particulier aux Minutemen, hein, ces membres des milices des colonies qui étaient capables de prendre les armes dans la minute, c'est pour ça qu'on les appelait ainsi. Et donc, les armes avaient déjà une assez grande importance, mais elles étaient relativement peu pratique à utiliser, et justement l'invention de Samuel Colt, hein, l'invention du revolver, va être extrêmement importante parce qu'elle facilite l'utilisation des armes.
Depuis 1787, les États-Unis ont une constitution, donc elle rentre en pratique en 1789, et tout le monde connaît le second amendement, donc 27 mots, qui régissent le droit de porter et d'avoir une arme. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le contenu de ce second amendement ?
Alors, il faut revenir au texte de cet amendement. Il dit « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple à détenir des armes et à les porter ne sera pas entravé. » Alors, les gens qui sont en faveur du droit aux armes ont retenu la deuxième partie de l'amendement. Le droit du peuple à avoir des armes ne sera pas entravé. Ceux qui souhaitent réglementer les armes disent « Attention, il y a une clause limitative avant qui parle de la sécurité d'un État libre. » Et effectivement, cet amendement, il a été adopté de manière à ce que les citoyens puissent être armés pour pouvoir faire partie de la milice de leur État, ce qui donnait du pouvoir, ce qui rendait un peu de pouvoir plus exactement aux États fédérés par rapport à l'échelon fédéral.
Faut que je te dise quelque chose. Je l'ai dit à tes frères quand ils sont partis se battre et maintenant je crois que ton tour est venu. Tu sais que je suis un homme qui croit en la loi. Après la famille, c'est la seule chose en laquelle il faut croire. Mais la loi, il y a beaucoup d'hommes qui s'en moquent. Des hommes qui ne reculent devant aucune forme de bassesse et qui aiment faire souffrir. Plus ils font souffrir, plus ils sont contents. Quand tu seras obligé de te battre contre tant de cruauté, tire le premier si tu peux. Et quand tu tireras, tire pour tuer.
Il y a un concept qui apparaît dans votre livre, vous appelez ça l'américanité. L'américanité est donc le rapport aux armes, et vous avez trois définitions sur lesquelles je voudrais qu'on s'arrête. J'ai une arme, donc je suis libre. On pourrait presque dire aussi au moment de Colt, j'ai un Colt et donc je suis libre. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai une arme et donc je suis libre ?
Les États-Unis se sont construits comme une nation politique. Les États-Unis, au moment de la Révolution, c'est le pouvoir du peuple par opposition au pouvoir central. Et le fait d'avoir une arme, c'est une portion de pouvoir pour chaque individu. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui militent pour le droit aux armes et qui s'opposent à la réglementation des armes ? Eh bien, c'est pour deux raisons essentiellement. Une des raisons, c'est l'autodéfense. Et il faut pas voir ça comme une approche un petit peu égoïste, un petit peu égocentrique, hein. Ça veut dire aussi une sorte d'engagement civique vis-à-vis de la communauté. Donc l'autodéfense d'une part, et d'autre part, l'aspect plus politique qui est la possibilité de prendre les armes contre le gouvernement s'il devait devenir tyrannique.
Didier Combeau, donc, je suis armé, donc je suis libre. Il y a aussi, je suis libre puisque j'ai une arme. On renverse la perspective.
Oui, tout à fait. La liberté de s'armer. C'est aussi une marque de liberté, c'est une marque de citoyenneté en quelque sorte, et c'est pour ça que c'est important pour les Américains.
Et alors enfin, je suis américain puisque j'ai une arme. Donc on va là si on revient à Samuel Colt, tout d'un coup il y a une, on va dire, une adéquation entre être américain et porter un Colt à l'époque.
Oui, tout à fait. Alors, Samuel Colt était un marchand très habile, hein. C'était un as du marketing. Les armes, par exemple, qu'il fabriquait, ces Colts étaient gravés. Le barillet était gravé et il y avait des scènes édifiantes comme, par exemple, quelqu'un qui, le Colt à la main, défendait une famille contre des Indiens. Il a fait aussi peindre des tableaux par un peintre très américain, pour le coup, hein, George Gatling, qui s'est beaucoup intéressé aux Indiens, entre autres. Et Samuel Colt a commandé un certain nombre de tableaux où on voit la chasse au bison à l'aide de son Colt. Donc ça aussi, la chasse au bison, c'est quelque chose de très américain. Donc le Samuel Colt a fait tout ce qu'il a pu pour présenter son arme comme une arme américaine. Lorsque Samuel Colt invente, dépose son brevet hein, dans les années 30 et qu'il commence à fabriquer des armes dans les années 30, les années 40 et puis ensuite dans les années 50, puisqu'il fait d'abord faillite et puis ensuite il remonte une entreprise, c'est aussi la période de la destinée manifeste, la période où il y a une volonté d'expansion des États-Unis d'une côte à l'autre, et le Colt est un outil pour cette expansion aussi.
Je paye pour voir.
Oh, voyons, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu mesquin? Je paye aussi, et en plus je relance d'un splendide pistolet nouveau modèle et chargé de bonnes balles.
D'accord, je suis.
J'ai dit que je ne voulais pas que ce convoi devienne un tripot. Cheyenne. Sans trop pour qu'on puisse résister, il faut essayer de fuir. Tout le monde dans les voitures.
Nous aurons vite rattrapé nos chariots.
Dès que vous serez en marche, vous couperez les traits des chevaux de tête.
Vous êtes complètement fous.
Allez en route, vite. Parce qu'il y a des chances pour que nos chevaux les intéressent plus que nous. Vous êtes joueurs, non? Allez, allez, perdons pas de temps.
Septembre 1841, New York. Samuel Colt cherche de l'argent. Accoudé au bar du City Hotel, il s'entretient avec deux possibles investisseurs. Son frère John fait irruption. Il est né 4 ans avant Samuel. C'est un jeune homme aventureux dont la vie avance en zigzag au gré de ses excès. Il joue, il boit, il vole et c'est un coureur de jupons. Ce qui s'est passé quelques heures avant ressemble à une nouvelle d'Edgar Allan Poe. En fait, ce dernier s'en est réellement inspiré dans l'écriture d'un texte intitulé « La caisse oblongue ».
Alors, il y a eu un épisode extrêmement marquant.
L'historien Didier Combeau,
c'est lorsque son frère John Colt a eu un différend avec son éditeur, hein, puisque son frère publiait des livres de comptabilité. Et il a eu un différend avec son éditeur, et il l'a tué. Alors, il l'a pas tué avec une arme à feu, hein, il l'a pas tué avec un Colt, il l'a tué à coups de hache.
C'est fâcheux, mais l'aîné n'a pas eu la présence d'esprit d'utiliser un des revolvers de son frère. Si cela avait été le cas, le cadet n'aurait sans doute pas hésité à capitaliser sur le retentissement autour du meurtre. Car non seulement Samuel Colt fabrique des armes, mais en plus, il s'occupe personnellement de la publicité pour assurer la promotion de ses créations à Barillet. En plus, Colt, c'est un nom vraiment facile à retenir. Mais non, son frère John a utilisé une hachette. Il a découpé le cadavre en morceaux pour l'introduire dans une boîte, laquelle a été glissée dans la cale d'un navire en partance vers la Nouvelle-Orléans.
Il l'a mis dans une malle, il l'a salé pour l'envoyer dans une... il l'a salé pour la conservation, hein, et pour l'envoyer à une adresse inconnue en Louisiane. Et puis, bon, il s'est fait avoir parce que les voisins l'ont dénoncé. Il a été emprisonné, il a été condamné à mort. Et le matin même de son exécution, il s'est marié à une femme qui s'appelait Caroline Henshaw, hein, qui était peut-être la maîtresse de Colt et qui était enceinte et qui a donné naissance à un enfant qu'on a appelé Sam. Et donc, on se demande si c'était pas plutôt le fils de Samuel Colt que de John Colt. Et donc, il a eu toute cette vie un petit peu troublée, un petit peu difficile à comprendre au point de vue. Alors, on a dit, son frère John Colt s'est suicidé dans sa cellule avant d'être exécuté. Et puis, ce jour-là, la prison a pris feu. Et on a dit qu'en fait, John Colt n'était pas mort, mais qu'il s'était échappé. Et donc, là aussi, il y a eu toute une polémique là-dessus.
Différence majeure, John a tué un homme, un seul. Les inventions de son frère Samuel en ont tué un nombre incalculable et ont fait sa gloire.
Donc je mets de la poudre d'abord au fond.
Rappelez-moi la composition de la poudre noire.
Ah, c'est du salpêtre, du soufre et du charbon. Alors, donc, au fond, je mets de la poudre. Ensuite, on peut appeler ça de la bourre. Je mets un peu de semoule. Vous avez, là, j'ai mis, là, pour pas évidemment mélanger, pour pas, parce que là, ça bouge, c'est dans la poche. Donc, il y a de la poudre. Il y a une rondelle de carton. Il y a ça de semoule, à peu près, qui sert de bourre. Une rondelle de carton et la balle qui est serrée dessus, qui est sortie. Alors, pourquoi tout ça? pourquoi qu'il y a... Parce que la poudre noire ne supporte pas dans une cartouche qu'il y ait de l'air. Ça peut engendrer une explosion et détruire l'arme.
Oui, c'est ce qui est arrivé à Samuel Colt au début quand il a fait ses démonstrations.
Voilà.
Les armes explosaient.
Voilà.
4 juillet 1842, midi tapante. Une petite embarcation est remorquée dans le port de New York par bateau. À peine a-t-elle quitté le quai qu'une énorme gerbe d'eau boueuse est projetée en l'air. En un instant, le petit rafiot a disparu. Il ne reste dans les flots pas le moindre petit bout de bois pour allumer un feu dans une cheminée. C'est le résultat d'une expérience menée par Samuel Colt avec sa nouvelle invention gardée secrète, la mine sous-marine. L'histoire ne dit pas si elle avait un barillet.
L'histoire des États-Unis à ce moment-là, c'est aussi un moment où les inventions se multiplient. Hein. On pense à Eli Whitney avec sa machine à égrener le coton, on pense au perfectionnement de la charrue par John Deere. Donc il y a beaucoup d'inventions qui apparaissent. Et Samuel Colt, c'est quelqu'un de très créatif. C'est quelqu'un qui... Il ne s'intéresse pas seulement aux armes, on l'a oublié, mais il a aussi travaillé sur des domaines, sur les explosifs, par exemple, pour mettre des charges sur les bateaux, pour faire exploser les bateaux, des charges sous-marines... Il a travaillé avec Samuel Morse sur le télégraphe, donc c'est quelqu'un qui est aussi tout à fait dans son temps et qui fait partie de ces inventeurs de cette époque-là.
Un peu de semoule, parce qu'à l'époque, il chargeait de la poudre jusqu'au haut, presque. Et ensuite, je mets la balle, qui doit être à fleur ici, ou un peu enfoncée, mais pas trop, pour qu'elle trouve tout de suite le canon et qu'elle n'ait pas à chercher un peu le canon déjà dans le barillet, plus l'entrée du canon. Voilà.
Pourquoi c'est de la semoule ? Il n'y a pas autre chose que de la semoule ?
Ben c'est facile à mettre et ça, on constatait que ça allait bien. C'est même pas de la semoule, c'est de la polenta que je mets. C'est encore plus fin. Voilà. C'est pour éviter que les deux déjà se mélangent. Bon, quand on tire sur place comme ça, comme vous allez voir, on ne se coupe pas l'arme. Hein. Elle est pas, y a pas de problème, elle n'est pas secouée. Mais si jamais on la met à la ceinture et qu'on veut faire du cow-boy, par exemple, ça va mélanger les deux et ça va pas aller. Quoi.
Donc là, on a une pensée pour les Rangers qui devaient remplir leur barillet pendant que les Comanches les criblaient de flèches.
De flèches, tout à fait.
Tiens, voilà une Bible. Garde-la, elle te fera beaucoup de bien.
Ah, merci, mon révérend. Merci du fond du cœur.
Eaton, vous pensez qu'ils vont charger ?
Quoi, vous me questionnez ?
En effet.
Merci. Oui. Un champ de mort. Leur chef doit tenir à sauver la face. Oui, capitaine, vous l'aurez bientôt sur le dos. Ce n'est plus qu'une question de minutes.
Pour ce que nous nous apprêtons à recevoir, nous te remercions, seigneur.
8 juin 1844. Une patrouille de 15 Rangers traverse le sud vallonné de l'État du Texas. Soudain, les flèches sifflent. 75 Indiens passent à l'attaque. Jusqu'à ce jour, les rencontres de ce type se sont toujours mal terminées pour les Rangers. À chaque fois, ils sont surpassés en nombre, mais aussi dominés du point de vue de l'armement. Les militaires ont toujours eu des pistolets, mais ils doivent prendre le temps de les recharger avec de la poudre noire après avoir fait feu. Il faut compter au minimum 30 secondes. Pendant ce laps de temps, un Comanche monté sur un cheval Mustang lancé à toute allure a le temps de tirer entre 10 et 20 flèches. Face à lui, le Ranger a donc toutes les chances de tomber raide mort, troué de part en part. Ce jour-là, pourtant, une surprise attend les agresseurs qui brandissent les Tomahawks. Les Rangers ont mis la main sur une arme à répétition conçue 8 ans auparavant. Elle dispose d'un cylindre rotatif qui est chargé de 5 balles. Le cylindre tourne à chaque coup tiré. Le cours de l'histoire en est changé, définitivement. À la tête des Rangers victorieux, il y a le capitaine Samuel Hamilton Walker. Il écrit un message à Samuel Colt. Jusqu'à présent, les Indiens se sont toujours crus supérieurs à nous dans le combat individuel. Ils ont toujours été une menace dans notre avancée vers l'Ouest. Je peux vous témoigner que nous vous devons en grande partie notre victoire. Sans vos revolvers, nous ne nous serions pas lancés dans une pareille aventure. Les deux hommes se rencontrent. Walker propose d'améliorer le revolver. Le 5 coups calibre 36 devient le 6 coups calibre 44. Son poids, 2 kilos. L'armée américaine passe commande de 1000 exemplaires.
Et là, il me manque manque quelque chose.
L'adresse ? La cible ?
Elle y est ?
Non, ça y est. Donc voilà, je prends mon arme comme ceci. Hop. Ah, c'est un petit peu long, hein, mais...
Écarte-toi, Martin.
Voilà.
Non, ne tirez pas, Eaton. Eaton, ne faites pas ça! Écarte-toi.
Tibur Sauger, vous êtes auteur de bande dessinée. Vous dessinez notamment des BD avec un fond de western, on pourrait dire. Oui. Notamment votre dernier ouvrage qui s'appelle Ghost Kid, dans lequel, forcément, il y a des scènes de duel avec un Colt. Expliquez-moi comment vous dessinez d'abord le Colt, et même justement quand il y a des tirs, et comment ça se passe pour vous, dessinateur ?
Alors, bon, j'ai la chance, étant donné que je fais du tir, je suis collectionneur aussi d'armes anciennes américaines, de Colt, d'en avoir, donc c'est plus facile en posant un sur le bureau, sur la table de travail, de pouvoir le dessiner. Pour ce qui est des tirs, alors j'aime assez montrer la réalité un petit peu des tirs, c'est-à-dire que les armes de l'époque tirent de la poudre noire, donc ça fait beaucoup de fumée. Et il y a une chose que je rajoute par contre souvent, c'est de décaler en fait le canon de l'arme au moment où je montre le départ du coup. Parce que une arme en fait relève toujours du canon au départ d'un coup de feu. Donc ça, dans mes dessins, je le montre.
Dans vos dessins, vous avez créé aussi des onomatopées pour le bruit des balles. Il y a oui. Pow en intérieur et plow en extérieur. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette précision sur le bruit de la balle?
Enfin, ça, c'est un pur ressenti. C'est-à-dire que le pan-pan claque plus comme une arme moderne. Si je devais faire tirer, je sais pas, un personnage dans les années 20 ou les années 1980 ou 2020, j'utiliserais peut-être plus facilement le pan, voire même le pack-pack, un petit peu, puisque maintenant les forces spéciales utilisent aussi des armes avec des réducteurs de son. J'utiliserais bien le pack-pack. Mais pour les armes à poudre noire, ça fait un gros bruit sourd. Alors, si on met un baoum, c'est carrément pour un canon, hein, en onomatopée. Alors que là, pour une arme de poing, on peut utiliser un pas ou alors un plat ou quand ça vous claque dans l'oreille. C'est surtout l'impression aussi par rapport à l'oreille.
Tibur Sauger, parlez-moi des clics aussi de l'arme de Colt. est-ce que c'est une légende ou c'est une réalité?
Alors, je sais pas si c'est la légende, mais j'ai de nombreuses armes différentes. Par exemple, j'ai des Smith & Wesson où vous avez seulement deux grandes armées, les Merwin Ulbert, plein d'autres armes. Par contre, si vous prenez un Colt, il y a quatre crans. Je sais pas, là, j'en ai un, par exemple, sous la main, je sais pas si vous allez pouvoir entendre. Je sais pas si vous avez perçu les quatre clics.
Tout à fait.
Et alors, selon la légende, on dit toujours que ça fait C-O-L-T. Colt. Voilà, c'était un peu comme une signature du créateur, du maître. Mais bon, tout ça, ça fait encore partie de la légende de Samuel Colt, hein, comme beaucoup d'autres.
Est-ce que Samuel Colt, pour vous, ça pourrait être un héros de bande dessinée?
Oh oui, parce que c'est quand même... Alors, ce sera pas pour moi... Moi, j'aime bien les héros un peu solitaires, un peu hors normes, sauvages, qui essaient de fuir un peu la civilisation, fuir leur monde. Samuel Colt, il est au contraire vraiment bien ancré dans son 19e siècle, qui est très industrialisé déjà. Et c'est un aventurier de l'industrie, c'est-à-dire qu'il est capable de se faire passer pour un docteur, pour aller vendre comme ça, comme un colporteur, pour aller vendre du gaz hilarant, parce que il y avait des gaz utilisés déjà dans l'entreprise de son père, je crois. Et donc, il se met comme ça à aller faire le représentant. Ça serait assez rigolo de montrer, en fait, un des plus grands noms de l'industrie armurière qui a démarré comme ça avec un petit chapeau melon, un petit costume étriqué à rayures et une mallette sous le bras pour aller vendre du gaz hilarant. C'est assez drôle. Et donc, oui, il a fini quand même ça en baron d'industrie, chef d'un empire, enfin, qui a plusieurs fois manqué de s'effondrer aussi.
Allez !
1850. Des encarts publicitaires illustrés vantent dans la presse les services rendus par Colt aux chercheurs d'or, colons, soldats et autres aventuriers de l'Ouest, contribuant à l'identification de l'arme avec toute une nation. Qu'on en juge avec cette traduction de l'époque. Chaque cow-boy chevauche désormais avec, accroché à sa ceinture, un Colt. Dans un holster, il dispose d'une carabine Colt. Et dans sa ceinture, un modèle plus petit, toujours signé Colt, glissé à côté de son couteau de chasse. Une patrouille de 8 hommes dispose ainsi d'une puissance de feu de 136 balles sans avoir à recharger. C'est bien une petite armée capable d'assurer la sécurité des convois de courrier à travers les territoires tenus par les Indiens.
Je te donne un coup de main pour la bagarre?
Non, je vais jouer ça à ma façon et ils sont obligés de me suivre.
J'espère que t'as pris tes colts à crosse d'or. Ils seront drôlement déçus s'ils les voient pas briller dans tes mains ce soir.
Cela, c'est pour porter le dimanche, Morgan. Ce soir, on travaille.
Ouais, très bien, je te verrai en bas.
Vous avez reconnu un extrait du western L'homme au colt d'or d'Edouard Mitrick et la fiction n'est pas loin de la réalité. Marielle Brie, vous êtes historienne de l'art et avec vous, j'aimerais qu'on parle de la rencontre entre Samuel Colt et le graveur allemand Gustav Jung qui va rentrer à son service en 1852.
On ne sait pas vraiment comment ils se sont rencontrés, on sait juste que ça s'est fait et rapidement il va être chargé des décorations, des belles décorations de commandes des Colt, puisque la plupart des graveurs n'étaient pas, étaient plus relégués en tout cas à des gravures plus simples. Et Gustav Jung, lui, va être repéré par Colt et Colt va évidemment lui donner un maximum de liberté sur les armes qu'il va décorer. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des armes qui aujourd'hui valent quasiment aussi cher que des tableaux de maître, hein, puisque aux ventes aux enchères, ça s'envole à des centaines de milliers d'euros quand on sait que le graveur est Gustav Jung. Il est vraiment considéré comme un graveur inégalé dans la seconde moitié du 19e siècle. Et Gustav Jung est vraiment considéré comme le renouveau de la gravure sur arme, et Colt en a bénéficié.
Parce que Colt, quand il va démarcher des dignitaires, que ce soit le tsar ou d'autres responsables, même américains, généraux, il leur fait cadeau d'une arme gravée donc par Jung. Qu'est-ce que c'est comme motif? Si on pouvait prendre un exemple, donc vous avez des photos sous les yeux.
Colt va vouloir justement que ces armes, elles aient, même pour la personne lambda, un attrait esthétique. Il va vouloir que les personnes qui achètent un Colt puissent se vanter d'avoir le Colt, le trouvent beau et envie de le montrer. Et il sait bien que c'est comme ça que ça va marcher, hein. C'est le bouche à oreille. Quand on a une belle arme, eh bien on la montre. Alors ce Colt-là, effectivement, il est peu orné, hein. Il y a seulement que le barillet, mais finalement ça change tout. On essaie d'imaginer un barillet lisse comme ça, sans cette attaque de diligence qui est très fine, très détaillée. On se retrouve avec une arme qui est très froide parce que les lignes d'un Colt, eh bien, elles sont très strictes, elles sont sévères, ce qui va aussi beaucoup trancher avec les armes qu'on faisait auparavant. La Colt, il est quasiment moderne avant l'heure, puisque les revolvers qu'on a aujourd'hui, ils ont ces mêmes lignes-là, très strictes, très droites. On pourrait presque dire qu'il est néoclassique, puisque l'époque coïncide avec le style néoclassique encore en Europe. Et lui, il va vouloir justement des lignes comme ça, très droites, très géométriques. On voit que de la crosse au barillet, donc la carcasse qui entoure le barillet, elle est un peu en biais, elle est seulement relevée d'un ponté, donc la boucle qui entoure, qui protège la queue de détente, hein, donc dans laquelle on passe l'index pour tirer. C'est juste relevé d'un élément un peu doré, mais on voit bien que ce qui compte, c'est la géométrie, la ligne droite, quelque chose de très sobre, mais de très efficace. Et le barillet, lui, il va venir donner un peu d'artistique et en tout cas de vendeur, d'attrayant. Et c'est ça qu'il cherche, Colt. C'est à avoir des armes qui sont efficaces, sûres, évidemment, mais aussi belles, puisque c'est comme ça qu'il va pouvoir mieux les vendre.
Il s'agit de vos Colts à crosse d'or, Prévost. Ne pourriez-vous cesser de les polir et de les rendre aussi brillants en les frottant avec la paume de votre main?
Je crois que je pourrais le faire, si tout marche comme je le veux ici.
Oh, une idée très bonne. Pourquoi ne pas les passer au brou de noix, ces crosses?
Et pourquoi pas? Mais qui viendrait le faire?
Londres 1851. Samuel Colt est au centre d'exposition de Crystal Palace où il présente ses armes aux visiteurs ébahis. Un peu plus tard, il s'adresse au Parlement britannique ainsi qu'à l'Institut des ingénieurs civils. Il déploie autour de ses inventions une telle énergie qu'il ouvre bientôt sur place une armurerie. Elle fournira en armes les troupes britanniques pendant la guerre de Crimée contre les Russes. Comme il a le sens des affaires, Colt rend visite peu après au tsar Nicolas Ier. Il lui fait cadeau d'un revolver en or, gagne sa confiance et du coup approvisionne en armes également le camp adverse.
Là, il y a de l'or, il y a beaucoup d'or. Donc là, c'est un modèle de dragoon. Et celui-ci, donc effectivement, là, il a une très très belle crosse bien en bois, évidemment, mais qui est relevée avec des éléments dorés. Et le revolver en lui-même, il est en acier, comme quasiment tous les revolvers Colt. Mais celui-ci, effectivement, il est finement gravé au burin, donc par Gustav Jung, ici. Et il a ses incrustations d'or. Et ces incrustations, elles arrivent vraiment à des endroits stratégiques de l'arme. Ça, c'est une caractéristique de Gustav Jung aussi. C'est pour ça qu'on le reconnaît comme un maître en la matière. C'est qu'il va arriver à créer une sorte de dynamique et de style. Il va avoir un art de la composition qui s'était pas vu sur les armes auparavant. Et là, il a vraiment cette capacité à rendre le dynamisme de l'arme, avec justement un art très classique et aussi un art très populaire américain. Donc sur le barillet, on a ces grandes feuilles d'acanthe là qui sont très élégantes, très enroulées, qui sont dorées. Et bien ce que veut faire Jung ici, c'est donner le sentiment que l'énergie, elle vient de là. Les balles, elles sont placées à l'intérieur, c'est de là que ça va partir. Et on sent bien que c'est ça qui va propulser la balle, qui va donner l'énergie pour passer ensuite donc dans la carcasse, qui est elle aussi recouverte d'ornements de feuilles d'acanthe comme ça, mais qui sont pas dorés ceux-là, qui sont en acier sur un fond noir, donc qui sont dégagés de l'acier au burin. Et puis avant ce canon, donc le canon qui est légèrement bleui, qu'on dit jaspé aussi, ça se voit pas très bien là sur la photo, mais il est légèrement jaspé ce canon, ça va. Alors ça le rend plus élégant, mais ça sert aussi à éviter la corrosion de l'arme, puisque les gravures, elles sont là aussi pour ça. Elles vont permettre de faire mieux pénétrer la graisse dans l'arme, donc pour mieux la protéger contre la corrosion, et évidemment éviter tout accident, hein, parce que ça reste quand même des armes dangereuses. On a une arme qui est entièrement recouverte, donc excepté le canon, entièrement recouverte de feuilles d'acanthe qui sont donc ciselées au burin. Et c'est là que tout le talent de Jung arrive, puisque on a vraiment cette délicatesse et cette manière d'arriver à sortir des formes extrêmement fines, à avoir beaucoup de modelés. Ce qui est admirable dans une arme aussi petite, hein, puisque c'est pas des armes qui sont très grandes, c'est des armes de poing, des revolvers. Donc sur une aussi petite surface, à faire des motifs aussi fins, c'est vraiment admirable et c'était inégalé à l'époque.
Il y a aussi deux animaux et un cavalier qui, on va dire, est presque en embuscade, non, sur ce
qui galope vers un Indien qui va lui essayer de se défendre en tirant une flèche. Alors évidemment, toute la symbolique de Colt est là, hein. C'est le Far West, c'est la conquête de l'Ouest. Et ces motifs-là, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les revolvers vont devenir l'emblème du Far West, vraiment, hein. Et finalement, Gustav Jung, sur ces armes-là, sur les armes de Samuel Colt, il va faire du mythe américain la représentation même de l'objet mythique américain. C'est une sorte de mise en abîme presque, puisqu'on a donc ces feuilles d'acanthe très classiques, très européennes, qui remontent quasiment à l'Antiquité, qui contrastent avec ces petits animaux, donc justement là qui sont donc il y a une sorte de bison et puis une petite biche, et donc le cavalier un peu plus haut contre l'Indien et un petit chien. Et ces motifs-là, eh bien, ils n'étaient pas pris dans des livres de motifs que les graveurs allemands utilisaient. Aux États-Unis, ils étaient pris vraiment dans la vie de tous les jours. Donc sur les billets de banque, sur les pièces de monnaie, dans les livres d'images, donc toute cette légende américaine, tout ce qu'on fantasme de l'univers américain, eh bien il est mélangé avec cette espèce de retour au classicisme que donne la feuille d'acanthe. Et on a vraiment sur une arme tout ce qui va faire le mythe du Far West.
Donc Colt, non seulement c'est un vendeur, mais on pourrait presque dire aussi que c'est un ambassadeur d'un art en train de naître aux États-Unis.
Ah oui, oui, oui. Colt, oui, lui, il va pas avoir peur de mélanger cette culture classique et cette culture populaire. C'est vraiment un pur produit américain, il a pas peur de ça, et c'est même comme ça qu'il se démarque finalement.
Samuel Colt est non seulement un as du marketing, mais il a aussi un goût pour la postérité. En 1847, il fait construire une armurerie dans sa ville natale de Hartford, dans le Connecticut. L'entreprise est surmontée, dès 1855, d'un bulbe d'oignon de couleur bleue. C'est en fait la copie du dôme d'une église orthodoxe de Saint-Pétersbourg. Pour attirer les ouvriers dans son armurerie, l'inventeur conçoit une vie en communauté autour de petites maisons en bois. Il y a aussi des bars, une école, une bibliothèque, une église, un centre communal, des associations sportives et culturelles. Le temps de travail est limité à 10 heures par jour avec une pause d'une heure pour le déjeuner. Samuel Colt, bien avant Henry Ford, a inventé le paternalisme industriel.
Oui, à Hartford, où il monte son entreprise, il crée une ville. Il crée une ville avec tout ce dont a besoin une ville, en quelque sorte. Et effectivement, il a une approche qui est relativement sociale. Il institue une pause déjeuner, il y a des horaires de travail, etc. Donc on est dans un domaine assez inventif dans le domaine social, et pas seulement dans le domaine technique. Ça correspond aussi au début du travail à la chaîne. On a ce que Samuel Colt perfectionne, ça n'est pas lui l'inventeur, il y a eu avant lui Eli Whitney et Samuel North, mais il met au point un système de standardisation des pièces. Auparavant, les armes étaient fabriquées une par une, donc chaque pièce était ajustée à chaque arme. Ce que fait Colt, c'est qu'il standardise les pièces des armes de manière à ce que n'importe quelle pièce puisse se monter sur n'importe quelle arme en mettant en place un système de tolérance dans la fabrication, etc. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui sera après repris par l'industrie automobile, d'ailleurs.
Voilà, comme Henry Ford, j'allais dire.
Tout à fait. L'industrie des armes, c'est le moteur de l'industrialisation au 19e siècle, comme l'industrie automobile va le devenir au début du 20e siècle.
Est-ce qu'on pourrait dire, donc Didier Combeau, que Samuel Colt, c'est un des pères fondateurs de l'Amérique ?
Oui, il en fait partie. On pense aussi à la guerre du Mexique. Et la guerre contre le Mexique permet d'ajouter aux États-Unis un territoire immense. Parce que c'est le Texas, mais c'est aussi le Nouveau-Mexique et toutes les régions qui vont jusqu'à la Californie. Donc c'est un territoire immense. Et donc, on peut dire qu'en ce sens, il a effectivement fait partie, peut-être pas des pères fondateurs, mais au moins de ceux qui ont permis l'expansion des États-Unis.
1861, début de la guerre de sécession. Le New York Times titre « Un patriote ?» point d'interrogation. Voici le début de l'article. Samuel Colt a déclaré récemment être en faveur de l'Union et a promis de fabriquer des revolvers pour le gouvernement. Il a été longtemps celui qui a approvisionné le camp des Confédérés. Il leur a vendu des centaines de milliers d'armes à bas prix. Il était temps qu'il fasse enfin quelque chose au profit des États-Unis.
Alors, ça fait partie de la légende noire de Samuel Colt.
Le spécialiste des armes, Daniel Casanova.
Au niveau des faits historiques, bon, les usines ont brûlé et les archives, malheureusement, ont disparu. Mais les ventes qu'ils faisaient dans les États du Sud, la guerre s'est déclenchée en 1861, c'était les ventes normales que fait tout commercial. Ensuite, il s'est déclaré effectivement en faveur du Nord, mais c'était pour faire monter la pression. Et Samuel Colt a toujours su graisser les pattes au bon endroit. Et c'est pour ça que l'armée américaine lui a été très fidèle pendant très très longtemps. Hein, il faut voir que le fameux Colt Single Action Army de 1873 qu'on voit dans tous les westerns, c'est un Colt que l'armée américaine a pris des revolvers Colt double action par la suite dès 1889. Puis le fameux pistolet semi-automatique Colt 1911, qu'on appelle aussi Colt 45, qui est resté très longtemps en service, pendant 70 ans, dans l'armée américaine. Et le M16 était fabriqué aussi par Colt Industries. Donc c'est une tradition chez Colt de servir les USA. Par contre, Colt vend à tout le monde, parce que c'est un commerçant, et c'est la libre entreprise.
Oui, alors c'est un marchand d'armes. Hein. La caractéristique des marchands d'armes, c'est quand même de détourner les yeux de l'usage qui peut être fait de leurs armes. Hein. Ils sont avant tout commerçants et ils doivent vendre des armes. Alors Samuel Colt, c'est un démocrate du Nord. À l'époque, les démocrates sont en faveur de l'esclavage. Et le Parti républicain va se créer en 1854 hein, pour faire avancer la cause de l'abolition. Donc Samuel Colt, c'est un démocrate du Nord. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour l'abolition de l'esclavage, mais il est pour que l'esclavage soit limité au Sud et que dans les nouveaux territoires, l'esclavage soit adopté par référendum. Donc il a une position un petit peu intermédiaire sur la question de l'esclavage. Et puis effectivement le Sud n'a pas de fabrique d'armes, donc le Sud est obligé d'aller se fournir en armes dans le Nord. Et Samuel Colt donc vend des armes et continue de vendre des armes pendant quand même plusieurs mois hein, après que la sécession commence à se profiler. Donc il a été effectivement critiqué pour ça.
Quelque chose, Clay.
Quoi donc, Morgan?
Je suis plus fort que toi. J'ai toujours été plus fort. Je peux te battre, Clay. Alors va-t'en. Tu ferais mieux de partir vite. J'ai gagné, Clay. J'ai gagné.
Il l'a eu. Gagné. Laissez-le, ne le touchez pas.
« 14 janvier 1862, Hartford, Connecticut. Les funérailles de Samuel Colt, un des premiers fabricants d'armes du pays, ont été spectaculaires, comme une représentation d'un grand opéra. La musique a été interprétée par l'orchestre de l'armurerie. Un brassard noir au bras gauche, ses 1500 employés ont défilé deux par deux devant le cercueil. » Samuel Colt est mort à 47 ans des suites d'une infection qui s'est transformée en pneumonie. L'inventeur le plus connu et le plus riche des États-Unis a poursuivi un rêve et l'a réalisé. Il laisse derrière lui une fortune de 200 millions de dollars, une épouse qui tiendra les rênes de l'entreprise jusqu'en 1905 et aussi une devise. Dieu a fait des hommes grands et d'autres petits. Je les ai rendus égaux.
Il y a des gens qui disent que ça ne s'est pas passé comme ça.
Aucune importance, Wyatt. Ça s'est passé comme ça.
Daniel Casanova, l'histoire de Colt, donc ça a façonné les États-Unis, et après, qui raconte l'histoire des États-Unis, notamment dans les westerns, c'est Hollywood. Et là, vous avez écrit un autre livre qui s'appelle « Les armes au cinéma » et on pourrait dire, là, on tombe sur un anachronisme. C'est-à-dire que les cow-boys ou les héros dans les westerns, ils utilisent une arme qui, à l'époque, n'existe pas. Expliquez-nous ces détails d'accessoires.
C'est assez amusant pour les gens qui connaissent. Ça change rien à l'histoire, mais c'est assez amusant. Alors, disons que les premiers Colt dont nous avons parlé étaient des armes à percussion, c'est-à-dire que dans le barillet, on versait de la poudre, une bourre, une balle, et puis de l'autre côté du barillet, on mettait une capsule amorce hein, pour faire partir le coup. Cette opération, on devait la répéter 6 fois, donc ça gâche tout. Si on voit John Wayne... colonel d'un régiment de cavalerie pendant la guerre de sécession, en train de prendre plusieurs minutes pour recharger son arme, ça va pas du tout. Donc les accessoiristes ont pris le modèle toujours Colt, mais qui, lui, tire des cartouches métalliques. Et ce modèle date de 1873, le fameux Single Action Army, 1873, qui a été donc adopté par la cavalerie américaine. Et ce revolver donc de 1873 a équipé la cavalerie américaine jusqu'en 1890. Et donc cette période-là se faisait avec des revolvers, comme je dis, à percussion, qui se chargeaient par le devant du barillet, alors que ceux avec des cartouches, on a une portière dans le bouclier du barillet qui permet de glisser les cartouches une par une. Et donc on retrouve des anachronismes, puisque c'est 1873, et on voit ce revolver dans le 1873, dans des films comme les aventures du capitaine Wyatt avec Gary Cooper, qui est armé en 1840, pendant la guerre avec les Séminoles, donc de ce revolver. Et ce n'est pas un film de science-fiction.
Donc
c'est logique.
Il a une arme qui a 33 ans d'avance.
Voilà. Donc on voit les acteurs américains tirer une vingtaine, voire une trentaine de fois, et on les voit jamais recharger leurs armes. Vous avez des films comme Le Déserteur d'Alamo, où il a encore un Colt Single Action Army 1873, et l'action se passe en 1836, où le seul revolver qu'il pouvait avoir, c'était les premiers Patterson à 5 coups, qui étaient des armes quand même rares et chères. Mais bon, ça enlève rien à l'histoire, si ce n'est que ça fait sourire, parce que effectivement, les soldats mexicains, eux, sont armés comme à l'époque, avec un pistolet à un coup, un fusil à un coup, à baïonnette et à percussion. Alors évidemment, lui, quand il peut tirer 6 coups d'affilée, le héros, il gagne. L'Amérique est sauvée.
Samuel Colt, l'homme qui arma l'Amérique, avec l'historienne d'art Marielle Brie, Daniel Casanova, auteur de l'histoire du revolver, l'historien Didier Combeau, le dessinateur de bande dessinée Tiburce Auger, Jean-Marie Martin, responsable de la section poudre noire dans le stand de tir de Quincy Voisin, et Amandine Gabriac et Steve Galizia, archivistes à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Texte adapté de la presse américaine de l'époque, dit par Anne Cressant. Toute une vie. Coordination Christine Bernard, assistée de Sylvia Favre. Réalisation Yvon Croisier, une émission proposée par Michel Pomared.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr, une page préparée et enrichie par Sylvia Favre et Quentin Vagané. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.